Donc, un tout petit résumé en vitesse. On a suivi Josué depuis l'esclavage en Égypte. C'est alors un tout jeune homme. Il ne faut pas l'oublier, parce que là, maintenant, on le voit beaucoup plus âgé à la fin du culte d'aujourd'hui. C'est encore un tout jeune homme qui voit arriver Moïse, appelé par Dieu pour faire sortir les 12 tribus d'Israël avec l'aide d'Aaron. Alors, on se rappelle que Josué, il a vécu les 10 plaies, la première Pâque, la traversée à pied sec de la mer Rouge. Mais il a aussi vu ces révoltes constantes du peuple qui tantôt se prosternaient et adoraient Dieu en promettant de lui obéir et tantôt menaçaient carrément de lapider Moïse, de le tuer, en lui reprochant les difficultés que le peuple traversait. À la limite, on pourrait comprendre que la chaleur, la faim, la soif aient provoqué des révoltes. Ça, nous, on peut le comprendre. Je pense qu'on aurait peut-être fait la même chose à leur place. Mais l'épisode du veau d'or, dont vous voyez, c'est déjà à peu près au milieu, montre que même quand tout allait bien, ils se révoltaient et ils faisaient n'importe quoi. Donc ça, c'est quand même un peu plus gênant. Donc on a regardé de près ces fameuses 10 rébellions pour comprendre un peu comment ça fonctionnait. Et on a observé que surtout le mécanisme de la 10e, parce que dans la 10e, on voit bien comment ça fonctionne. Et c'est toujours le même. Et on s'était un petit peu arrêté là-dessus parce que on avait remarqué que ce genre de comportement, vous pouvez le voir dans vos familles, à l'école, dans votre travail, dans n'importe quelle association où vous allez, et même malheureusement parfois dans l'église. Derrière chaque rébellion, il y a toujours un certain nombre de meneurs, de gens qui entraînent les autres. Et on avait remarqué que dans le cas du peuple d'Israël, c'était des gens qui avaient suivi le peuple pour profiter des miracles de Dieu. Parce qu'ils sont quand même, ce Dieu-là, il est actif, hein. Ils n'avaient pas vraiment de foi personnelle dans le Dieu d'Israël. Ils n'avaient pas non plus de vision pour la terre promise. C'était un peu l'intérêt de voir, au moins ça, c'est un Dieu qui bouge. Hein. C'est pas comme nos idoles. Par ailleurs, on avait remarqué que c'était souvent des gens frustrés. Dès que les choses n'allaient pas, ça n'allait pas comme ils voulaient, c'était dur. Souvent jaloux et avides de pouvoir. Et on va retrouver ça dans n'importe quelle société humaine, parce que c'est le fond, hélas, de notre âme humaine. On a aussi remarqué que dans chaque rébellion, dans chacune, on s'aperçoit qu'il n'y a jamais d'allusion au miracle passé. Je trouve ça gonflé quand même. Avec tout ce qu'ils avaient vécu, ils n'avaient pas un pour dire « Oui, mais Dieu a quand même fait des miracles. La dernière fois, il a ouvert le rocher. La dernière fois, on a eu de l'eau autant qu'on en voulait. La dernière fois, Dieu a répondu non. Aucune allusion. » Et je pense que pour nous, c'est aussi une leçon. Quand ça va mal, quand on se sent pas bien, essayons de rassembler toute notre énergie pour nous rappeler les bénédictions passées. Hein, il y a ce chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux ». On dit aussi « Si tu passais ton temps à compter les bienfaits de Dieu, tu n'aurais plus de temps pour te plaindre ». C'est vrai. C'est vrai. Mais ce n'est pas facile quand on est dedans. Hein. Il n'y a aucune allusion non plus au fait que Dieu avait choisi Moïse. Chaque fois qu'il se révoltait contre Moïse, il n'y avait personne pour dire « Mais attendez, Moïse, il n'a rien demandé ». Il était parti dans le désert avec ses moutons, il s'était marié, il avait des enfants. Il est venu contraint et forcé par Dieu, parce que ce n'était pas son désir. Jamais, jamais on en parle que c'est Dieu qui l'a appelé. Que les plaies d'Égypte ont confirmé l'autorité de Moïse. Non plus. Jamais d'allusion aux promesses de Dieu. Ben, il nous a promis d'entrer dans le pays de Canaan, il nous a promis, c'était promis depuis Abraham. Il l'avait entendu de père en fils depuis des générations. Aucune allusion. Aucune allusion même sur la victoire sur les Amalécites, qui était quand même à la suite d'une des révoltes. Aucune allusion. Donc ça, souvent on va voir que les gens qui entraînent à la rébellion ne vont jamais parler des victoires passées, des bonnes choses. Donc nous-mêmes, quand notre cœur se rebelle, essayons de nous rappeler de ça. Et puis on a remarqué que les rébellions fonctionnent toujours de la même façon. Et dans le dernier discours des espions, on a remarqué plusieurs choses. D'abord, ils se présentent comme des gens obéissants et soumis et sans reproche. On a fait ce que tu nous as dit, on est allé là où tu voulais qu'on aille, on est bien quoi. Ensuite, ils présentent d'abord le côté positif et objectif et tout à fait véridique. Oui, oui, c'est vrai, c'est un pays où coule le lait et le miel. Oui, c'est vrai. Donc, mais après, il y a un mais. Et c'est souvent là que ça se joue. Et les gens les plus habiles qui créent justement des rébellions, que ce soit à l'école ou au travail, vous allez voir, ça marche comme ça. On commence par présenter le côté positif, puis après, mais. Et on commence à donner le côté négatif, et qui est vrai. Parce que comme personne n'est Jésus, ben, y a forcément des côtés négatifs chez tout le monde. On présente le côté négatif et vrai. Puis enfin, on tire des conclusions fausses. Et c'est là que ça devient très, très grave. Et vous vous souvenez, c'est là que Caleb avait essayé de les faire taire. Mais il n'avait pas réussi. Parce que là, Caleb sentait qu'ils allaient arriver aux fausses conclusions, et c'est ce qu'ils ont fait. Des conclusions négatives qui tiennent pas du tout compte de Dieu ni de sa parole. Et quand vous sentez votre cœur agir comme ça, ou quand vous sentez quelqu'un qui vous décourage comme ça, soyez attentif aux conclusions. Il y a ça et ça qui va bien, mais il y a ça et ça qui va pas. Donc, oula, alors là, faites attention, parce que parfois notre cœur fonctionne comme ça aussi. Hein. Il faut toujours tenir compte de Dieu et de sa parole. Qu'est-ce que Dieu a promis? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que dit la Bible? Et évidemment, eux, ils n'en ont pas tenu compte. Donc, fausse conclusion. Fausse vision. Il met sur le nez de chacun des lunettes colorées. Ces 10 espions, ils ne pensent qu'à une chose, la peur. Et la peur est mauvaise conseillère. La peur. Et on va voir que dans tout le message d'aujourd'hui, Dieu passe son temps à dire à notre pauvre Josué, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Alors, parfois, je me dis, mais c'est pas possible, il devait être mort de peur, ce gars, pour que Dieu n'arrête pas de lui dire, n'aie pas peur. D'un autre sens, à sa place, on aurait peut-être eu 10 fois plus peur. Mais, voyez, la peur, c'est les lunettes colorées de la peur. C'est terrible. Une fois qu'on a peur, on ne peut plus rien faire. La peur paralyse. Hein? Quand on a peur des examens qui arrivent, ça peut paralyser. Moi, j'ai vu, c'était affreux ça, une très bonne élève à l'université qui avait tellement peur qu'il lui était totalement impossible de faire quoi que ce soit à l'oral. C'était un cas psychologique embêtant, hein, parce que c'était une fille très douée, elle faisait des devoirs écrits magnifiques. Mais impossible, tellement elle avait peur de l'oral. La peur peut vous bloquer complètement. Alors, il y avait eu des arrangements, parce que les profs étaient conscients quand même que c'était grave, mais c'est dommage, elle était parfaitement normale pour tout le reste. Hein. Mais peur des examens oraux, au point qu'elle était paralysée, elle ne pouvait pas ouvrir la bouche. Pas question de faire un exposé, pas question de... Alors, à notre époque, c'est dur, hein, ils vous demandent pas mal d'exposés dès le primaire. Hein. Donc, voilà. La peur est terrible. Et puis, le peuple en arrive à se maudire par une fausse prophétie. Attention à nos paroles qui nous bloquent nous-mêmes. Ça vous est jamais arrivé de prononcer des paroles qui vont vous bloquer vous-même? Et le peuple se maudit lui-même avec une fausse prophétie. Nos femmes et nos enfants seront livrés au pillage. Qui a dit ça? Personne. C'est eux qui l'ont inventé. Et d'ailleurs, Dieu va même aller jusque-là, il va reprendre leurs paroles pour leur dire, ces enfants qui devaient être livrés au pillage, eux, ils rentreront, mais vous, vous ne rentrerez pas. Et toc. En fait, d'être livrés au pillage, c'est eux qui vont rentrer dans le pays. Tout le contraire. Tout le contraire de ce qu'ils avaient prédit. Donc attention aux fausses prophéties. Et vous voyez, les fausses prophéties, ça vient toujours de se dérouler. Hein, on présente les choses objectives. Vrai, objectif, ensuite négatif. Et ensuite, on tire des fausses conclusions et on arrive à des fausses prophéties. Ensuite, ils prennent une décision finale. Donnons-nous un autre chef et lapidons Josué et Caleb. Ben voyons. Vous voyez, ce n'est pas le genre de décision qui est géniale, mais elle vient logiquement après se dérouler. Et on peut dire, c'est carrément le blueprint, le plan, le schéma typique d'une révolte. Et c'est pour ça qu'on s'est arrêté un petit peu là-dessus. Et ça peut arriver, si vous êtes attentif dans votre travail, vous pouvez rencontrer des choses similaires. Donc soyez toujours attentif aux gens qui commencent par se présenter comme tout à fait corrects, on dit toujours la vérité, on fait toujours bien. Puis progressivement, on arrive sur du négatif, de l'accusation et des fausses conclusions. Et ça peut vous entraîner dans des difficultés. Donc soyez toujours attentif. Et notre sauvegarde, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité de Dieu. Alors, après cette révolte, Dieu va pardonner, vous vous souvenez? Parce que Moïse, il met le paquet hein, dans la prière, on peut dire. Il met même sa vie en jeu. Il ne sait plus quoi faire pour arriver à calmer Dieu, entre guillemets. Et Dieu pardonne, mais trop, c'est trop. C'est la 10e révolte. Dieu dit, maintenant, ça suffit. Tous ces gens qui passent ce temps à se révolter, ils n'entreront pas à Canaan. Leurs enfants rentreront, c'est ok, mais eux non. Donc vous allez tourner 40 ans dans le désert, c'était curieux. Dans la Bible, on voit ça souvent, les chiffres qui ont un sens. Donc 40 ans, c'était un an par jour d'exploration du pays. Ils avaient exploré le pays pendant 40 jours, et bien pendant 40 ans, ils tourneront dans le désert. Du coup, le peuple, comme d'habitude, fonctionne à retardement. Oh, on est désolé, on a péché. Bon, allez, on va y aller à la bagarre. Et Moïse dit, c'est pas la peine, Dieu ira pas avec vous. c'est pas le moment, vous n'avez pas obéi, c'est trop tard. Maintenant, Dieu a dit non, mais ils n'ont pas voulu entendre raison. Résultat, évidemment, ils ont été battus. Ce que ça nous apprend à nous, c'est que la victoire dans notre vie, quel que soit le problème, elle n'est acquise que si Dieu est avec nous et si c'est Dieu qui nous envoie. Et ça, c'est important. Moi, j'ai trop vu de gens souffrir parce qu'ils s'étaient engagés dans des trucs où Dieu ne les avait pas envoyés. C'est des souffrances, c'est des difficultés pour parfois toutes les familles. Donc attention, la victoire n'est acquise que si c'est vraiment Dieu qui nous a envoyés et s'il est avec nous. Deuxièmement, si Dieu a promis quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on peut le faire n'importe quand. Il y a le temps de Dieu. Et souvent, on a tous des expériences où on sait qu'il a fallu attendre. C'est un très vilain mot, hein. Ça, il a désobéissance, c'est des mots qu'on n'aime pas. Attendre. On n'aime plus attendre. C'est pour ça qu'on a inventé les micro-ondes, hein. Parce que finalement, on peut très bien faire cuire nos trucs autrement. Mais on n'aime pas attendre. Plus c'est rapide, plus c'est performant, plus on est heureux. Et avec Dieu, malheureusement, on est obligé d'attendre souvent. Donc agir hors du temps de Dieu, c'est aussi risquer la défaite. Savoir attendre le temps de Dieu. Et vous inquiétez pas, quand Dieu veut quelque chose, il le fera. Donc ça, c'est même si parfois il faut attendre un petit peu. Et puis passer outre la correction de Dieu, ignorer ce qu'il a dit, c'est aussi la défaite assurée. Quand Dieu a parlé, c'était pas la peine de revenir dessus. Je crois que c'est pas la peine de revenir dessus. Quand Dieu a dit quelque chose, c'est clair, c'est net. C'était pas la peine. Même si on reconnaît son péché, on devient la pâture de l'ennemi si on passe outre les paroles de Dieu. Voilà, c'était les leçons un peu à tirer de cette expérience. On avait aussi parlé de Josué et Caleb, qui les pauvres, eux, ils pouvaient rentrer dans le pays et ils ont dû aussi attendre 40 ans. Là, moi, je trouve que c'était frustrant. J'aurais pas aimé ça du tout. Autrement dit, Josué, pour revenir à lui, il va être privé du ministère auquel il est appelé pendant 40 ans. Et lui, il n'a rien fait. Il a tout fait bien. Il a été fidèle à Dieu. Il a obéi. Et il va devoir se taper les 40 ans de désert et ne pas pouvoir exercer son ministère pendant 40 ans. Vous savez, j'étais un peu embêtée hier. Je me suis dit, mince, je fais la vie de Josué ou quoi? Pendant 40 ans, on n'entend plus parler de Josué. C'est gênant quand même. Mais c'est important qu'on connaisse le cadre dans lequel il a vécu. Mais c'est tout ce que je peux vous dire. Pendant ces 40 ans, on ne sait pas ce qu'il a fait. Si, on sait qu'il était auprès de Moïse, qui n'était pas le temple, enfin le tabernacle, mais on ne sait rien de lui. Donc il a eu 40 ans d'obscurité alors qu'il était appelé à la plus haute destinée. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? 30 ans Jésus avant d'entrer dans son ministère. Moïse, dans le désert aussi pendant 40 ans. Joseph, ça a duré 17 ans, 20 ans, vous imaginez? Tous ces gens ont dû attendre longtemps dans le désert. Alors quand nous, on trouve que 6 mois, c'est trop long, attention. Qu'est-ce qu'il me disait? Ah oui, c'est Christelle, l'autre jour, c'est long d'attendre la naissance, là. Bah, c'est pas 40 ans, hein. Heureusement. Ça lui semble terriblement long, les dernières semaines. Voilà, nous, on n'aime pas attendre, hein, ça nous semble toujours trop long. Vous imaginez ces gens. Et je me souviens, Marilyn Mitton disait toujours, quand on construit un grand immeuble, il faut creuser très, très profond. Donc, c'est beaucoup plus long. Si vous construisez juste un rez-de-chaussée, un vide sanitaire, ça suffit. Hein. Mais si vous faites un truc de 20, 30, 40 étages, il faut aller très, très loin dans le sol. Je me souviens, à Montréal, on était là-bas en pleine construction, et il y avait des grandes palissades, il y a des petits trous, heureusement, on pouvait regarder. Et on voyait ces trous béants. Évidemment, maintenant, quand on est retourné à Montréal il y a quelques années, on a vu ces grands immeubles, là où il y avait les grands trous. Mais c'était immense, on voyait pratiquement pas le fond, là, quand on était au bord. C'était tellement profond. Et quand Dieu veut faire quelque chose de solide dans nos vies, de quelque chose de profond, de durable et d'élevé, ben, il creuse longtemps. Alors, ne nous décourageons pas. C'est épouvantable, hein, mais c'est comme ça. Et donc, Josué va être privé du ministère pendant toutes ces années de désert. Privé même de son rôle de chef de guerre. C'était quand même un chef de guerre. Vous imaginez un chef de guerre qui reste 40 ans à marcher dans le désert alors qu'il était construit pour se battre, il était construit pour faire des stratégies. Tout en lui fonctionnait comme ça. Et il a dû rester 40 ans à marcher dans le désert. Alors, c'est du temps perdu? Non, c'est pas du temps perdu. Parce que là, il va apprendre des tas de choses. Il va rester à côté de Moïse. Et pendant ces 40 ans, en fait, Moïse va aider le peuple à se structurer. Au départ, il faut bien vous dire, ce n'était pas le gentil peuple d'Israël, comme on peut l'imaginer au temps de David ou encore un petit peu après, Asa ou autre. C'était un tas, un ramassis de gens, c'est vrai, de toutes sortes, en tout genre, qui ne savaient pas trop pourquoi ils étaient là et qui n'avaient pas de loi particulière, qui avaient été imprégnés de la religion égyptienne, qui avaient été imprégnés des coutumes égyptiennes, qui avait un petit peu ramené des coutumes du temps d'Abraham, mais bon, ça devait dû se diluer un petit peu. Eh bien, il fallait tout apprendre. Il fallait tout apprendre. Et alors, quand vous lisez, je reconnais que c'est très ennuyeux, mais maintenant, j'y ai pris goût depuis que je travaille sur Josué, les lois du Lévitique. Je suis sûre que tout le monde fait la grimace. Ben, finalement, c'est assez intéressant, parce que quand on se remet dans le coup, et qu'on se met avec eux, là, dans le désert, entre deux rébellions... Et ils ont dû tout apprendre. Des choses très simples qui peuvent nous surprendre, mais les règles sur l'alimentation, sur l'hygiène, c'était un des rares peuples qui avait de telles lois d'hygiène. Par exemple, le fait de ne pas faire les excréments n'importe où, mais d'aller creuser en dehors du camp et de reboucher. On dirait les chats savent le faire, mais pas toujours. Mais... ils ont appris des choses simples, mais essentielles pour leur santé, pour la vie de tous les jours. Et puis les problèmes légaux aussi. Hein, et un truc très bien pour les dames, hein, les femmes avaient le droit d'hériter. C'était exceptionnel quand même dans une société à cette époque-là. Quand ils ont présenté le problème à Moïse, il est allé consulter Dieu, il dit « mais oui, elles peuvent hériter, il n'y avait pas que le fils qui héritait ». Voilà, il y avait des tas de lois qui sont sorties et le peuple a été structuré, le culte a été structuré pendant ce temps-là. Comment on adorait Dieu ? Pas n'importe comment. Dieu était saint, c'est-à-dire mis à part, consacré. Les choses qui concernaient le culte étaient consacrées, étaient mises à part. C'était pas n'importe quoi. Il fallait que ce soit clair dans leur tête. Alors nous, aujourd'hui, on trouve ça un peu « oh ». Mais oui, mais on sortait d'un peuple qui n'avait pas de repères dans aucun domaine. Donc il fallait structurer. Et ces 40 ans, en fait, ont bien servi à ça. Et si vous vous amusez à lire les différentes lois, lisez-les dans une version moderne, parce que le vocabulaire de la seconde est un peu difficile, vous voyez que tout a été pris en compte. Et avec beaucoup de tact, même les lois sur les esclaves, c'était très moderne pour l'époque. L'esclave avait droit à son sabbat, lui aussi. Les animaux aussi, d'ailleurs. Parce qu'il y avait quand même des choses intéressantes. On protégeait même les animaux. Donc, on voit que la désobéissance des uns va rejaillir sur les autres. Ça, on en a parlé la dernière fois. Et je pensais aussi aux enfants. J'ai calculé, en moyenne, les enfants passent 20 ans à l'école. Quelquefois un petit peu moins, quelquefois un petit peu plus. Je crois que pour Nirina, ça sera un peu plus. Pour certains, c'est plus court. Olivier, il a réussi à s'en tirer avec beaucoup moins. Mais c'est quand même entre 18 et 25 ans hein, d'école, on va dire 20 ans en moyenne. Eh bien, ça, vous ne croyez pas que c'est du désert ? Ce n'est pas drôle, l'école. On passe son temps à apprendre des trucs, à obéir aux profs. Et les profs ne sont pas toujours drôles, regardez Marie-France. Et Charles Et c'est vrai que ce n'est pas drôle d'être à l'école tout le temps et d'apprendre des choses, d'apprendre des leçons, de ramener des devoirs le soir, ça, c'est le pire, hein. Préparer des examens, c'est long. Et souvent, les adultes, ils ont le culot de vous dire « c'était le bon temps ». C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ils vous racontent n'importe quoi. C'était pas le bon temps quand eux, ils y étaient. C'est maintenant qu'ils pensent que c'était le bon temps. Non, c'est dur. C'est votre désert. Vous apprenez des tas de choses. Et c'est long. Mais Josué est passé par là. Et si vous voulez devenir un bon chef de guerre comme Josué, il faut accepter ces 20 ans de désert... où vous tournez hein, d'année scolaire en année scolaire, de septembre à juin. Il y en a qui terminent bientôt, là, qui se frottent les mains, heureusement. Mais c'est vrai, c'est long. Et c'est ces temps de formation qui vont faire de vous quelqu'un de bien, quelqu'un qui va pouvoir apporter aux autres. Donc, profitez-en. Alors, on va passer à la révolte suivante, pour ne pas trop perdre de temps. C'est Corée, cette fois-ci, qui se révolte. Alors, on commence à tourner dans le désert. D'après certains commentateurs, ça s'est passé à la fin. On ne sait pas, il n'y a pas de référence précise. Et voilà que ce monsieur Corée va avoir des complices, Dathan et Abiram. Ils arrivent à soulever 250 hommes, et pas n'importe lesquels. Des gens en vue. Ah, il avait du punch, le gars, quand même. Hein. Et il va voir Moïse en disant, Moïse et Aaron, pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'Assemblée du Seigneur? Après tout, hein. Alors, Corée, lui, c'était un lévite, donc il avait le droit au service du tabernacle, mais il voulait plus. Et puis, Dathan et Abiram étaient, je crois, de la tribu de Ruben, c'est-à-dire le fils aîné d'Abraham. Là, c'est plus tellement la peur qui va les animer, comme ça a été le cas dans beaucoup des révoltes, mais ça va être la jalousie et le pouvoir, la volonté de pouvoir, plus de pouvoir. Alors, c'est un problème, parce que qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent, Moïse ? Moïse ne s'est jamais défendu. J'ai toujours été étonnée. Il ne s'est pas défendu. Et à chaque fois qu'il y avait une révolte, la Bible dit qu'il se mettait la face contre terre et suppliait Dieu d'intervenir. Donc le voilà reparti dans le tabernacle, la face contre terre, et il demande à Dieu d'intervenir. Et il va leur dire « Présentez-vous avec de l'encens devant le tabernacle. » Corée accepte, mais Dathan et Abiram refusent de se déranger. Eux-mêmes vont aller jusqu'à reprocher à Moïse de vouloir les faire mourir dans le désert. Qui a refusé d'entrer à Canaan ? Ce n'est pas Moïse. Mais ils vont accuser Moïse de quelque chose qu'ils ont fait eux. Ils n'ont pas voulu rentrer dans Canaan. Et maintenant, ils accusent Moïse. Bah, toi, tu as voulu nous faire mourir dans le désert. C'est quand même exagéré. Moïse va consulter Dieu et il va dire aux gens, éloignez-vous des tentes de ces gens. Et c'est ce que j'avais dit à la fin du message la fois dernière. Il y a des moments où il faut s'éloigner des gens qui vivent sans arrêt dans la rébellion, dans la révolte, dans la colère. Parce que c'est dangereux. Et donc les gens qui ont bien voulu obéir, je crois quand même la majorité, se sont éloignés des tentes de Corée, de Dathan et d'Abiram. Et le commentaire de Moïse, c'était de peur d'être emportés par tous leurs péchés. La Bible dit « Heureux l'homme » qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Et souvent, on le dit aux enfants, hein, parce que, aux jeunes, parce que c'est marrant de rigoler, et moi j'aime bien rire aussi, mais se moquer des autres, ça peut être très grave. Et Dieu ne veut pas qu'on s'asseye sur le banc des moqueurs. C'est du venin, c'est quelque chose de très très mauvais. Heureux l'homme qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Et nous, en France, on a besoin de se garder ce verset à l'esprit, parce qu'on aime bien se moquer des gens. Ce n'est pas toujours méchant, on dit que ce n'est pas méchant. Par contre, pour celui qui le subit, c'est peut-être autre chose. Et c'est une forme d'oppression, comme le disait ce matin Yves, je crois. Et en France, on cultive beaucoup cette oppression. Des profs qui se moquent de leurs élèves, etc. Les élèves qui se moquent, les hommes politiques qui se moquent les uns des autres. On a une culture de moquerie qui est grave et qui est une oppression. Donc, heureux l'homme qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Et le verset de Moïse s'applique bien, de peur d'être emporté par tous leurs péchés. Et il va se passer quelque chose d'incroyable, là les enfants, c'est incroyable. Il y a eu carrément un tremblement de terre, la terre s'est ouverte et ils sont tombés dedans. Alors le miracle, c'est pas forcément que la terre s'ouvre, je pense que de temps en temps il doit y avoir des tremblements de terre dans ces régions, c'est qu'il soit passé à ce moment-là. C'est clair. Le timing était parfait, comme toujours avec Dieu. La terre s'ouvre et les engloutit tous. Et puis, il y a un feu qui se déclare dans le camp et qui va consumer les 250 hommes avec leur encens. C'est grave. Et Dieu voulait montrer par là quelque chose d'important. On ne se révolte pas contre Dieu de cette manière-là. Eh bien, imaginez que c'était la fin des révoltes. Non, le lendemain. Le lendemain, toute la communauté des Israélites se mit à maugréer contre Moïse et Aaron en disant « C'est vous qui avez fait mourir, comme si Moïse pouvait créer un tremblement de terre. C'est vous qui avez fait mourir le peuple du Seigneur. Quelle interprétation des faits. Mais bon, ça leur est retombé dessus. Et là, cette fois-ci, la colère de Dieu va se manifester. C'est plusieurs milliers de personnes qui vont mourir dans le camp. La Bible ne donne pas de détails. Vous savez que la Bible est très sobre. Et souvent, on a des détails dans d'autres textes. Mais là, on n'en a pas, on ne sait pas ce qui s'est passé, est-ce que c'est une épidémie, est-ce qu'on ne sait pas. Toujours est-il que c'est Aaron et Moïse qui vont s'interposer, qui vont aller dans le camp avec le feu de l'autel, dans des petites cassolettes, là, et qui vont se promener dans le camp pour faire arrêter le fléau. C'est quelque chose de grave. Je pense que pour Josué, ça devait être quelque chose de terrible. Et puis, vu qu'il y avait une remise en question de leur autorité, Moïse va dire au peuple, de la part de Dieu, amenez, chaque chef amène son bâton et le mette devant l'autel. Et on s'aperçoit au bout de quelques jours que le bâton d'Aaron a fleuri. Non seulement il a fleuri, mais il a produit, c'était un bâton d'amandier, il a produit des amandes. Donc là, il n'y a pas de doute, celui que Dieu avait choisi, c'était bien Aaron et pas quelqu'un d'autre pour le sacerdoce, pour être prêtre. Et le commentaire est assez amusant de la part de Dieu. Il dit que ce bâton soit conservé comme un signe pour les rebelles. Tu les empêcheras ainsi de maugréer contre moi et ils ne mourront pas. Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Je vous fais remarquer, et ils ne mourront pas. Le but de Dieu n'est pas la mort du pécheur, mais c'est qu'il arrête de pécher, qu'il arrête de désobéir. Et on peut se dire, là, c'est fini quand même, les révoltes. Non, 13e révolte. Et là, c'est la catastrophe. Je l'ai lu, je l'ai relu, ça fait mal au cœur. Le peuple cherche de nouveau querelle à Moïse. On manque d'eau, ce lieu est inhospitalier. On ne peut pas semer d'abord ici. C'était des cultivateurs. Rappelez-vous, en Égypte, c'était des éleveurs. Mettre des éleveurs dans le désert, c'est pas possible. C'est frustrant, mais c'est frustrant. On va lire chapitre 20 de Nombre, versets 2 à 6. Voilà. Il n'y avait pas d'eau pour la communauté. Ils se rassemblèrent contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. C'est marrant, il ne s'adressait pas à Dieu, il s'adressait tout le temps à Moïse. Ils dirent, si seulement nous avions péri quand nos frères ont péri devant le Seigneur. Donc c'était la veille, ou l'avant-veille, je ne sais pas. Pourquoi avez-vous amené l'assemblée du Seigneur dans ce désert? Et si nous devons y mourir, nous et notre bétail? Vous voyez, c'était des éleveurs qui parlent là, des paysans. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte si c'était pour nous amener dans ce lieu hostile? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, il n'y a même pas d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent encore, face contre terre, et la gloire du Seigneur leur apparut. Et le Seigneur dit à Moïse, prends le bâton et rassemble la communauté. Toi et Aaron, ton frère, donc ils étaient deux, vous parlerez au rocher. Rappelez-vous, la dernière fois, il lui avait demandé de frapper le rocher. Vous parlerez au rocher sous leurs yeux, et il donnera son eau. Donc, ce que Dieu voulait, c'était quelque chose d'exceptionnel. Frapper un rocher, on peut dire, ça a déclenché des vibrations. Et puis voilà, l'eau a coulé, même si c'est un peu, tiré par les cheveux. Mais parler à un rocher, c'est quand même plus compliqué. C'est-à-dire, ça demandait une foi un peu plus grande. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, tu feras boire la communauté et son bétail. Donc, même principe que la dernière fois, l'eau commençait à couler, ça faisait un ouet dans le désert, ça faisait une sorte de petite rivière qui alimentait tout le camp. Moïse prit le bâton qui était devant le Seigneur, comme celui-ci le lui avait ordonné. Jusque-là, c'est bon. Moïse et Aaron réunirent l'assemblée en face du rocher. Jusque-là, tout va bien. Et Moïse leur dit, aïe, aïe, aïe. Dieu n'avait pas demandé qu'on parle au peuple. Mais Moïse était excédé. Il en avait par-dessus la tête. Et cet homme extrêmement patient, extrêmement humble, va craquer. Écoutez, je vous prie, rebelle. J'aimerais avoir le mot d'origine, je pense qu'il devait être assez fort. Est-ce de ce rocher que nous, on va pouvoir faire sortir de l'eau pour vous? J'imagine que c'est un résumé. Puis Moïse leva la main. Oh, il était en colère, Moïse. Ras-le-bol de ces gens. Et il frappa deux fois le rocher avec son bâton. Dieu ne lui avait pas demandé de parler au peuple, surtout pas de les gronder comme ça. Dieu ne lui avait pas demandé de frapper le rocher. Lui, en plus, il va le faire deux fois. Dieu est bon, il en sortit de l'eau en abondance, la communauté but et son bétail aussi. Mais quand il va revoir le Seigneur, ça se passe différemment. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, parce que l'autre, il a rien dit, il l'a laissé faire. « Parce que vous n'avez pas eu assez de foi en moi pour montrer ma sainteté sous les yeux des Israélites. » Et j'imagine comme Josué était serviteur de Moïse, il était à côté. Je ne sais pas ce qu'il a ressenti, mais il a dû dire « La Moïse n'est pas en son état normal. » Oui, aïe, aïe. « Vous n'avez pas eu assez de foi en moi pour montrer ma sainteté. » Et j'ai réfléchi à ce verset, j'ai dit « Mais elle est où la différence? C'est quoi? Enfin, pour si peu ?» Vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont là les eaux de Meriba où les Israélites chercheraient le Seigneur. Il ne pourra pas rentrer à Canaan parce qu'il a désobéi. Alors je me suis gratté la tête dans tous les sens. Je dis mais c'est pas possible pour si peu. Je l'ai relu, je l'ai lu dans d'autres versions. J'ai regardé des commentaires. Je dis c'est pas possible que pour si peu. Et puis après j'ai réfléchi. J'ai prié, j'ai dit Seigneur quand même. Ce geste-là de la part d'un enfant de 10 ans au milieu du peuple, ça ne poserait pas de problème. Mais le même geste par son père, ce serait déjà plus gênant. Par le chef de tribu, ce serait encore plus gênant. Par Josué, ça aurait été gênant, même si c'est le serviteur de Moïse, c'est encore plus gênant. Par Moïse, c'est une catastrophe. Et c'est là qu'on voit, et tous les gens qui ont des responsabilités dans le monde le savent, plus on a de responsabilités, plus nos gestes ont de l'importance. Alors attention, moi je connais des gens qui ont refusé des responsabilités à cause de ça. Ouh ! Parce qu'on sait très bien que plus on a de responsabilités, plus nos actions ont du poids. Et le fait de refuser d'obéir à Dieu devant tout le peuple, pour n'importe quel quidam du peuple, c'était bon, il désobéissait à Dieu. Mais de la part du leader que Dieu avait nommé, c'était pas acceptable. C'est pour ça que la Bible dit que ceux qui enseignent seront jugés beaucoup plus sévèrement que les autres. Je crois que je vais rentrer. J'y pense souvent, hein. C'est pas évident. Et Moïse, en tant que chef du peuple, pouvait pas se permettre de faire ce qu'il voulait, même si tout son être disait « Là-bas, bande de rebelles, allez vous faire voir ailleurs !» Je sais pas ce qu'il... C'est un résumé, à mon avis, hein. Mais ça ne devait pas être drôle, parce que c'est la première fois qu'on le voit parler comme ça au peuple. D'habitude, il répète simplement les paroles que Dieu lui a données. Rappelez-vous, si vous regardez les autres textes, vous allez voir, il ne fait que répéter les paroles de Dieu. Et là, il craque, il dit ce qu'il a sur le cœur. Bande de rebelles. Est-ce de ce rocher que nous, on va faire sortir? Qui a parlé de nous? Ce n'est pas question que ce soit lui. Et dans la bouche du chef du peuple, celui que Dieu avait nommé, ce n'était pas acceptable. Ça ne pouvait plus continuer. Le nom de Dieu n'était plus mis à part, n'était plus sanctifié. Il ne montrait plus la sainteté de Dieu, sainteté au sens de totalement à part. Justement, à part de cette colère humaine, à part des désirs de la chair, à part du découragement. C'est ça, le nom de Dieu est saint. Et il ne pouvait pas être mélangé à la colère, à la frustration de Moïse. Voilà pourquoi. Et c'est pour ça que si un petit enfant fait une bêtise, c'est une chose. Si c'est le père de famille, c'est beaucoup plus grave. Si c'est quelqu'un en autorité, c'est encore plus grave. Et c'est pour ça que le diable passe son temps à essayer de nous faire pécher. Et on va voir ça avec Balaam tout à l'heure. Le but du diable, chaque fois qu'il y a des murmures et des révoltes, c'était de faire déshonorer le nom de Dieu. Parce que derrière tout ça, il y avait le diable qui voulait faire déshonorer le nom de Dieu. Et faire pécher ses serviteurs ou ses enfants, c'est son rêve, parce que ça déshonore le nom de Dieu. Chaque fois qu'on a un mauvais comportement au travail, en tant que chrétien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens qui savent que vous êtes chrétien, ils vous le font remarquer tout de suite. Oh, pour une chrétienne, franchement, hein. Oh, pour un chrétien, dis donc, hein, t'aurais pu, hein. Et c'est ça le but du diable. C'est partout où vous allez, essayer de vous faire déshonorer le nom de votre maître. Et essayons d'y penser pour résister justement à ces tentations, surtout au travail. Hein. Parfois, il y a de ces oppressions au travail. Hein. On en a tous connu à un moment ou à l'autre. Et c'est là qu'il faut refléter la sainteté de Dieu. Dans ces moments-là, montrer que non, un chrétien ne va pas se laisser aller. Et c'est difficile, parce que la chair est là. C'est pas juste! Et Moïse ne va pas entrer dans la terre promise. C'est épouvantable quand vous pensez que toute sa vie a été axée là-dessus. C'est horrible. J'y ai pensé un petit peu, ça c'est cauchemardesque. Hein. Tu vas faire rentrer le peuple, c'était la promesse depuis le départ. Il a vécu les plaies d'Égypte, il a vécu toutes ces révoltes, il a tout traversé et au dernier moment. Et il y a un verset dans la Bible que ma mère me citait toujours, c'était de regarder vos conducteurs spirituels, etc., et observer leur fin. Elle me dit, c'est là qu'on voit les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. C'est comment ils ont fini leur vie. Pas comment ils l'ont commencé, mais comment ils l'ont fini. Bon. Nous tiendrons. Mais c'est vrai, c'est important. Hein. Alors, Édom se trouvait sur leur route. Ils s'approchaient maintenant du pays de Canaan. C'était les descendants d'Ésaü. Et Dieu dit, non, non, n'allez pas les embêter, pas question de leur faire la guerre, vous allez les contourner. Aaron va mourir peu de temps après, et c'est son fils Éléazar qui va lui succéder. Une scène assez impressionnante, hein. Moïse l'a emmené sur la montagne, et puis il a enlevé les habits sacerdotaux, les habits de prêtre de Aaron, et il les a mis à son fils Éléazar, qui se révéla être un homme de Dieu. Mais ça devait quand même être très impressionnant. Puis Aaron est mort, là, sur la montagne. Marie était déjà morte, donc il reste Myriam, enfin la sœur de Moïse. Donc maintenant, il ne restait plus que Moïse, Josué et Caleb, de l'ancienne génération. Pas tout à fait. Il en restait encore d'autres et Dieu va les éliminer bientôt. On va voir la dernière révolte, la 14e révolte. Il faut contourner Édom. Ça veut dire qu'on allait entrer dans le pays de Canaan et bon, voilà qu'il faut contourner Édom. Je crois d'ailleurs que c'est dans l'autre sens. Ils n'étaient pas contents. Et Nombre 21, verset 4. Ils prirent dehors la montagne par le chemin de la mer des joncs pour contourner Édom. En route, le peuple perdit patience. Oh, dites donc, c'est pas la première fois. Et parla contre Dieu et contre Moïse et Rebis. Pourquoi nous avons fait monter d'Égypte? Et on recommence. Il n'y a ni pain ni eau. Nous avons pris en aurore ce pain méprisable. Ça, c'était pas gentil pour la manne. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants. Non pas parce qu'ils étaient brûlants, mais parce qu'ils créaient une morsure brûlante. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. En fait, ça va être les derniers, l'élimination des derniers rebelles par des morsures de serpents. Et à la fin, il y a eu un dernier essai de Dieu pour sauver les gens. Il a demandé à Moïse de faire un serpent avec de l'airain et de l'accrocher sur un bâton. Et évidemment, ce symbole nous rappelle Jésus fait péché pour nous, fait serpent, fait péché pour nous, qui a été accroché sur la croix. Malédiction. Mais si on regarde à Jésus, on est sauvé. Et quand les Israélites regardaient ce serpent, par la foi, sur la parole de Dieu qui avait été donnée, ils étaient guéris et ils ne mouraient pas. C'est un épisode assez impressionnant. Plusieurs ont été sauvés, d'autres, j'imagine tous ceux qui n'ont pas voulu regarder, qui étaient tellement en colère après Moïse, ils sont morts bêtement. Et puis finalement, ils vont avoir une bagarre avec deux rois différents, Sion et Og, qui vont leur refuser le passage. Ils vont les attaquer. Alors là, je ne sais pas qui a conduit l'armée. Le pire de tout, c'est qu'on n'en parle pas. Est-ce que c'était Josué? Est-ce qu'il a confié ça à quelqu'un d'autre? Mais mettez-vous à la place de Josué! Ça fait 40 ans que j'attends. J'ai gagné une victoire sur les Amalécites et j'ai l'impression que là, il n'a pas été nommé pour diriger l'armée. On parle d'Éléazar qui les a accompagnés avec le coffre de l'Alliance. Ils ont eu la victoire, mais apparemment, Josué n'était pas de la partie. En tout cas, on n'en parle pas. Mettez-vous à la place de Josué. Mais il y avait de quoi avoir le sang qui bout quand même. Il a été d'un calme extraordinaire. On n'entend pas parler de lui. Ils arrivent donc dans les plaines de Moab, en face de Jéricho. Et là, on va voir à quel point les espions mentaient. Parce que, en fait, le roi de Moab tremblait. Il tremblait tellement qu'il a eu une idée géniale. Il y a un devin qui habitait assez loin, qui s'appelait Balaam, qui à chaque fois qu'il bénit, les gens sont bénis. Chaque fois qu'il maudit, les gens sont maudits. Il faut l'appeler, il va maudire le peuple. Et c'est curieux, là, entre parenthèses, vous vous souvenez, ils s'étaient comparés les espions à des sauterelles. Oh, des petites sauterelles, on est petits malheureux, les gens nous considèrent comme des sauterelles, etc. Et vous savez à quoi le roi de Moab comparait le peuple? C'est rigolo, hein? À des bœufs qui broutent toute la verdure de la campagne. Entre une sauterelle et un bœuf, il y a une différence de taille, même s'il y a des grandes sauterelles. Des bœufs qui broutent toute la campagne. Mais il avait peur! Alors, qui est Balaam? C'est un problème, hein. Parce que parfois, à l'école du dimanche, on le présente juste comme un prophète. Non, non, non. Balaam était un devin. Alors, dans la Bible, pour ceux qui ont la Bible NBS, comme la mienne, vous avez une petite allusion à Balaam, parce qu'il y a des inscriptions qu'on a retrouvées qui parlent de Balaam, en dehors de la Bible. Et c'était pas un saint, Balaam. C'était un devin. Alors, c'est un cas un petit peu intriguant. C'est un prophète qui, d'une part, avait reconnu l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oh oui, il existe, il est Dieu, il est souverain, wa, wa, wa. Et puis, de l'autre côté, ils se gênaient pas pour servir Baal et les autres dieux. Entre deux, il y avait l'argent aussi. Mais il était attaché au service des deux, en fait. Ce qui fait que, pour être réputé pour bénir et maudire avec efficacité, je pense qu'il trafiquait aussi avec des puissances occultes. Donc il n'agissait pas du tout en bon prophète de l'Éternel. Ça, pas du tout. Mais c'était un homme qui était sensible, visiblement, à la voix de Dieu. Mais il était aussi sensible aux honneurs, aux cadeaux. Il était très attaché à l'argent. Alors c'est curieux parce que la Bible en parle beaucoup de Balaam. Pas seulement dans ce texte-là. Je crois qu'il y a une dizaine de références. Je vais vous en citer quelques-unes tout à l'heure, je crois. Et c'est un personnage qui est sans cesse tiraillé entre l'obéissance à Dieu, son désir de gloire, d'honneur et d'argent. Et il n'a jamais fait le choix. Il a toujours essayé de ménager la chèvre et le chou. Alors d'abord, quand le roi de Moab vient le chercher, il envoie des gens et dit « Bah non ». Restez là à dormir, je vais consulter Dieu pendant la nuit. Pendant la nuit, il consulte Dieu. Dieu lui dit non, non, tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple. Pourquoi ? Parce qu'il est béni. Bon, c'est réglé. Il dit aux envoyés, désolé, je n'ai pas le droit, je ne peux pas. Les envoyés repartent, le roi de Moab dit, je ne vais pas donner assez de cadeaux, je ne vais pas envoyer des gens assez importants. Il lui envoie des princes avec encore plus de cadeaux, d'honneur, des promesses de gloire. Et puis, ils reviennent voir Balaam. Balaam dit, écoutez, dormez ici, puis je vous dirai ça demain matin. Et là, Dieu lui dit, bon, mais écoute, vas-y. Vous savez, quand on insiste auprès de Dieu, moi, quand j'insiste, je dis toujours, Seigneur, mais toutefois, fais ta volonté, hein, parce que je ne veux pas avoir d'ennui. Et là, il insiste, et Dieu lui dit, va, mais je te préviens, tu ne diras que ce que je te dirai. Il va voir ses cadeaux, il part, oui, les gars, on y va. Donc, il va voir Balak, l'accueille comme un prince et le fait monter. Mais en route, j'avais oublié, le passage que tous les enfants aiment bien, c'est le seul passage de la Bible où il y a un animal qui parle. Donc c'est quand même intéressant. Il était monté sur son ânesse, c'était la deux chevaux de l'époque, peut-être plus, je ne sais pas. Et d'abord, en traversant des champs, en traversant un chemin près des champs, elle s'en va vers les champs, elle ne veut plus avancer droit. Donc il la tape. Et puis, elle reprend le chemin, et elle serre la jambe de Balaam contre le mur. La retape. C'est pas sympa quand même avec son âne. Et puis, troisième fois, l'ânesse refuse d'avancer, et comme elle pouvait aller ni à droite ni à gauche, parce que il y avait des murs c'était en les vignes, je crois, de chaque côté, elle se couche. Alors là, il était vraiment en colère, il la frappe, et l'ânesse se tourne vers lui, et lui dit, pourquoi me frappes-tu ? Je pense qu'il a quand même dû être secoué. Et elle lui dit, je t'ai toujours servi, mais qu'est-ce que j'ai donc fait ? Et là, Dieu ouvre les yeux de Balaam et il voit qu'il y avait un ange avec une épée qui était prêt à le frapper. Il a été secoué quand même. Il dit, si ton ânesse ne s'était pas écartée, c'est toi que j'aurais tué. Alors, il a tout compris là. J'ai péché, je vais retourner chez moi. Et Dieu lui dit non, mais tu diras la parole que Dieu mettra dans ta bouche. Donc, quand il arrive, comme je vous ai dit, il était accueilli par Balak. Premier sacrifice au sommet d'une montagne. Première prophétie, il ouvre la bouche pour maudire le peuple. Il ne dit que des bénédictions. Aïe, aïe, aïe. Il va même dire un verset très important qui dit « La magie ne peut rien contre Jacob ». Oh, c'est un verset précieux. Quand vous avez affaire à des gens qui font des sciences occultes et vous pouvez soupçonner qu'ils en ont après vous, ça peut arriver, hélas. Rappelez-vous ce verset, la magie ne peut rien contre Jacob. Dieu est notre protecteur. Et c'est Balaam qui l'a dit, alors il était bien placé pour le savoir. Le roi est furieux. Non mais enfin, je t'ai pas fait venir pour ça et tous les honneurs que je t'ai promis. Mais c'est peut-être parce que tu voyais le peuple là, dans la plaine, il s'étendait à perte de vue, ça t'a impressionné. Tu vas aller dans un endroit où tu vas en voir qu'un petit bout, ça va être plus facile. Il remonte sur une montagne, resacrifice. Balaam se remet à part, se prépare à prophétiser, il ouvre la bouche, que des paroles de bénédiction. Ouhou ! Alors là, Balak est dans une rage, il dit, écoute, on va essayer une troisième montagne, on refait des sacrifices, une autre montagne, on voit le peuple d'un autre angle. Quelquefois, il faut voir le problème sous différents angles, hein, c'est vrai. Et alors, sur la montagne, on recommence, sacrifice, à chaque fois c'est des sacrifices, je pense qu'il devait bien manger, parce que je crois qu'il mangeait les bêtes après. Font un festin, visiblement. Il reprophétise et là, le pire de tout. Lisez ces textes, c'est très amusant, vu du côté, de notre côté, parce que pour Balak, c'était l'horreur. Il va rebénir ce peuple, et en plus, non seulement il va prophétiser des bonnes choses, mais il va ensuite prophétiser sur l'avenir. Et il va aller jusqu'à dire « Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira ». Et de nouveau, Balak est en colère, et Balaam lui dit, ben, comme il lui dit à chaque fois, en français moderne, ce serait « je te l'avais bien dit ». Je ne pouvais pas faire autrement. Et puis, il ne va pas se contenter, il dit, attends, j'ai encore d'autres choses à dire, le pauvre Balak. Prophétie sur l'avenir, où il prévoit donc la naissance de Jésus, un grand roi qui naîtrait, un astre va sortir de Jacob. Prophétie très importante. Dans la bouche de qui ? Alors, faut pas en profiter pour dire, comme certaines personnes, que n'importe quel devin peut prophétiser des bonnes choses. C'est un cas très exceptionnel où Dieu l'a empêché de dire des mauvaises choses. C'est Dieu, c'est pas lui. Attention, hein. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah bon, on peut aller voir des voyantes, etc. » parce qu'ils peuvent aussi dire des bonnes choses. Non, il n'est pas question. La Bible l'interdit formellement. D'ailleurs, Moïse va le prescrire avant de partir. Dans le Deutéronome, il va prescrire qu'il est hors de question de consulter les morts pour les vivants. Il est hors de question de consulter les voyants, etc. C'est « maudit soit celui qui ». Attention, n'allez jamais vous laisser aller, même par une copine qui veut vous lire les lignes de la main ou des choses comme ça. Jamais, jamais, jamais. Et je sais qu'à l'école, ça se fait. C'est pour ça que je vous le dis. Jamais, jamais. La Bible est très claire là-dessus. C'est une malédiction. On n'a pas le droit de faire ces choses-là et la Bible est très, très claire. Mais là, c'était différent. Dieu avait décidé de confondre le mauvais prophète. Et il a pu dire que des bénédictions. Et vous savez, quand l'ennemi a des mauvais plans pour nous, et Dieu sait qu'il en a, l'ennemi a des mauvais plans pour vous. Vous croyez que Dieu a des plans pour vous, mais lui aussi. Hein. S'il peut vous casser, vous détruire, vous faire du mal, vous maudire par toutes sortes de façons, il le fera. Mais Dieu, lui, il a des bons plans. Et c'est ceux-là qui vont sortir. Et ça, c'est formidable. Dieu vous protège. Alors, par contre, il y a un problème. On va lire chapitre Nombre 25, versets 1 à 4. Parce que, aussitôt après l'épisode de Balaam, on ne parle toujours pas de Josué, hein, aussitôt après l'épisode de Balaam, voilà ce que vous lisez. Balaam retourna chez lui, Balak aussi s'en alla de son côté. Ligne suivante. Israël habitait à Shittim, le peuple commença à se livrer à la prostitution avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur dieu. Le peuple mangea et se prosterna devant leur dieu. Israël, après le désert, ça devait pas être désagréable de faire des festins. Israël s'attacha au Baal de Péor. Israël s'attacha au Baal de Péor, au dieu Baal, qui demandait des sacrifices d'enfants. N'oubliez jamais ça. Et le Seigneur se mit en colère contre Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dû l'entendre, hein, que Balaam les avait bénis au lieu de les maudire. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le reste de la Bible est là pour nous le dire. Vous avez des tas de passages dans la Bible qui expliquent ce qui s'est passé. Et le passage que je vais prendre pour gagner du temps, c'est dans Nombre 31, verset 16. Moïse parle des femmes moabites qui ont été amenées avec les prisonniers de guerre. Il dit, ce sont elles qui, par la parole de Balaam, ont entraîné les Israélites au sacrilège envers le Seigneur dans l'affaire de Péor. Ah, ah, ah. Balaam était un coquin, dans le plus mauvais sens du terme. Comme il n'avait pas pu aider, puis il avait sans doute envie des cadeaux, il avait dit à Balak, c'est là qu'on s'en aperçoit, écoute Balak, je sais comment tu peux maudire ce peuple. Moi, je ne peux pas les maudire. Personne ne peut les maudire parce que Dieu les a bénis. Alors, il y a un truc. Le meilleur truc, c'est de les empêcher de rester sous la bénédiction de Dieu. Le principe est simple. Si vous sortez sous la pluie battante sans parapluie, vous serez mouillé. C'est le même principe. C'est simple. Les femmes moabites, tu les envoies faire un petit tour dans le camp. Inviter les jeunes gens. Enfin, faire des bons repas avec du bon vin et toutes sortes de légumes, de fruits, de viande rôtie. Non, mais quand on a été dans le désert pendant 40 ans. Et puis, après, ils vont danser. Et puis, ils vont faire la fête. Et puis, ils vont adorer leur dieu. Ça fait partie du festin. Et une fois qu'ils seront dans l'idolâtrie du dieu Baal, tout est possible. Dieu ne pourra plus les protéger. Ils auront changé de dieu. Ils seront sortis du parapluie. Donc toutes les bénédictions du monde n'y pourront plus rien. Voilà, Balak, t'as la solution. Balak l'a bien entendu, c'est pas sorti par l'autre oreille. Hein. Aussitôt, il a dû convoquer les filles de Moab en leur disant « C'est la fête ! Allez inviter les jeunes gens et les hommes du camp !» Et puis voilà, ils ont fait la fête. Et je vous dis que les fêtes, quand je lis quelquefois les résumés des concerts de hard rock, surtout en Scandinavie et tout, avec on égorge des cochons, enfin il y a tout un tas d'horreurs. Ils n'ont rien à envier à ce qui se faisait à Canaan, et inversement, c'était ce genre. Prostitution sacrée, etc., etc. C'était tout et n'importe quoi. Les boîtes de nuit, c'est des trucs pour enfants de cœur à côté. Sans blague. Les festins de Canaan, quand on lit ça dans les livres d'histoire, c'était horrible. Horrible, tout ce que vous pouvez imaginer de plus horrible. Et les enfants d'Israël sont allés là, sont allés adorer Baal, et ils se sont attachés. Il faut dire que hein, ça ne devait pas être désagréable. Hein. Et naturellement, la malédiction pouvait venir sur eux sans aucun problème. Ils n'avaient plus, ils sortaient de la protection, ils sortaient du parapluie. Et le système est simple. On va retrouver ça dans 2 Pierre 2,15. Ça, c'est des références que vous pouvez regarder. 2 Pierre 2,15 et Apocalypse 2,14 qui nous mettent en garde contre la voie de Balaam, la doctrine de Balaam, l'égarement de Balaam. C'est tout simple. Le but est simple. C'est comme on ne peut pas maudire les enfants de Dieu. On ne peut pas les casser. On ne peut pas leur faire du mal tant qu'ils sont sous la protection de Dieu. Donc, il y a un truc qui marche. Les faire sortir de la protection de Dieu. Les faire désobéir. Cette histoire va être commentée par l'apôtre Pierre, par Jude, par Jean. Et elle est importante pour nous chrétiens. Elle nous enseigne par l'exemple plusieurs choses. Rien ni personne ne peut s'opposer au plan de Dieu. Rien ni personne. Quand Dieu a dit, la chose arrive. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Même un prophète qui était si efficace que Balaam et qui jouait double jeu. Dieu peut mettre ses paroles dans la bouche de quelqu'un qui est payé pour nous nuire. Et quelquefois au boulot, il y a des gens qui sont payés pour nous nuire. Dans la mesure où ses paroles confirment ce que Dieu a déjà dit. Dieu peut mettre ses paroles dans la bouche de quelqu'un qui est payé pour nous nuire, dans la mesure où ses paroles confirment ce que Dieu a déjà dit. Si Dieu a dit quelque chose. Vous vous souvenez, moi, parfois, quand on avait des gros problèmes de santé avec les enfants, avant d'aller chez le médecin, je priais. Seigneur, qu'ils disent pas ce qu'ils ont envie de dire. Mais ce que toi, tu veux qu'ils disent. Et c'est comme ça qu'un jour, il y a un médecin qui a regardé la radio de Samuel et qui a dit, avec ça, il ne devrait jamais marcher. Mais l'essentiel, c'est qu'il marche. C'était important parce que d'autres médecins auraient pu nous dire, oh, il faut d'autres examens, il faut ci, il faut ça, parce que la radio dit que. Elle est restée dans une attitude de foi qui n'est pas très normale chez un médecin. Amen. Dieu peut mettre dans la bouche des gens, des paroles qui viennent de lui, qui sont en accord avec lui. Même si ce n'est pas très médical parfois, mais qui vous garde dans un chemin de foi. Je ne dis pas que ce sera toujours comme ça, mais il faut le demander à Dieu. Dieu peut mettre ses paroles dans la bouche de quelqu'un. Mais attention, bien sûr, il faut toujours s'attendre à Dieu et que ce soit en conformité avec la parole de Dieu. C'est évident. Mais nous, qui peut s'opposer alors à la bénédiction dans votre vie ? Ben, c'est nous. Nous pouvons nous opposer au plan de Dieu pour nous. Vous pouvez vous opposer au plan de Dieu pour vous. Nous pouvons nous placer sous une malédiction en désobéissant volontairement et consciemment à Dieu. C'est, comme je disais, sortir sans parapluie. C'est votre choix. Dieu vous donne un parapluie, un grand parapluie. Si vous l'emmenez, il n'y a pas de problème. Si vous le laissez à la maison, ça sera votre problème, c'est clair. Donc, nous pouvons nous opposer au plan de Dieu et nous pouvons nous placer sous une malédiction. Et ça, Balaam le savait, c'est pour ça que j'ai dit c'était un coquin. Le conseil qu'il donne à Balak va entraîner tout le peuple à l'idolâtrie. Fête, festin, danse, débauche, culte des idoles. Ils se soumettent eux-mêmes à la malédiction. Ils se soustraient eux-mêmes à la bénédiction de Dieu. Qui peut nous ôter de la main de Dieu ? Personne, sauf nous. Parce que Dieu nous garde libres, contrairement au diable, qu'une fois qu'il a une proie, il la lie et il la garde. Dieu nous laisse toujours notre liberté. On peut entrer et sortir, on peut le quitter, on peut revenir. Pas jouer avec ça, mais on est libre. Et l'ennemi fait encore la même chose aujourd'hui. Il l'a d'ailleurs toujours fait, regardez à la création. Il devait être furax quand il a vu cette création, cet homme et cette femme parfaits. Ça devait être horrible pour le diable. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a essayé de détruire le jardin d'Éden. Il a essayé de tuer Adam et Ève. Il ne pouvait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a aidés à sortir de la protection de Dieu. Il a séduit Ève pour qu'elle l'entraîne Adam et ainsi de suite. Il va nous proposer de désobéir carrément. Il va nous pousser à faire des compromis par peur. Et là, c'est trop tard là. Je voulais parler de l'exemple de Néhémie, qui était sur le point de gagner victoire sur victoire. Vraiment, il avait reconstruit la ville. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi est venu le voir en lui disant, « Néhémie, viens avec moi dans le temple, quelqu'un veut te tuer. » Néhémie n'a pas craqué. On ne va pas comme ça dans le temple. On ne va pas comme ça dans le lieu saint. Mais il aurait pu, hein. Et là, tout était fichu. Sa réputation était cassée. Et c'est toujours le même principe de Balaam. Entraîner les gens à se détacher de la protection de Dieu. Et là, on est en danger. Moi, je vais malheureusement être obligée d'arrêter là, parce que j'ai déjà débordé. Mais pendant tout ce temps-là, je me suis dit, j'ai un peu honte de vous avoir dit que je parlais sur Josué. Josué était là, il a vécu ça avec tous les autres. Et pour l'instant, il est encore dans le désert avec les autres. On va voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Non, dans 2 semaines.